broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour.
Cédric Langevin, bonsoir.
Bonsoir Yann, bonsoir à tous.
Vous êtes avec nous pour le journal complet. Tout d'abord les titres.
La dette publique à un niveau des plus alarmants. Xavier-Luc Duval explique qu'on ajoute le montant de 28 milliards de roupies obtenus de la Banque de Maurice. La dette publique passe à 103%. Ces 28 milliards de roupies inclus comme revenus. Le leader de l'opposition déplore une manipulation des chiffres par Ranganathan Padayachi. Et pour sa part, Ranganathan Padayachi explique qu'il n'y a pas d'obligation de remboursement et que ce montant ne peut être traité comme une dette. Kisnan Papers, Yogi Dasso Minaden embarrassé par les questions de Roshi Badel lors de l'enquête judiciaire. Une semaine après s'être fait vacciner, un sexagénaire admis aux soins intensifs. Aucun lien n'a été établi pour le moment, soutient le ministère de la Santé. L'Union citoyenne dit ne pas être contre le vaccin, mais s'oppose contre l'obligation de se faire vacciner. Le supermarché Winners de Rosebel reprend ses opérations à partir de ce mercredi. Un de ses employés avait été testé positif. Et Rihanna Mengli Gulbul nommée Senior Pune Judge. À l'étranger, en France, le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire dès jeudi. Le couvre-feu levé dès dimanche. Euro 2020, l'Italie affronte la Suisse ce soir et obtiendra déjà sa qualification en cas de victoire. Xavier-Luc Duval accuse Ranganathan Padayachi d'avoir faussé les chiffres après la private notice question axée sur le transfert de 60 milliards de roupies de la Banque de Maurice vers le Consolidated Fund. Le leader de l'opposition a tenu un point de presse pour étayer ses allégations et révéler les vrais chiffres. Arisa Pirali, Jessica Gouda.
Sur les 60 milliards de roupies que la Banque de Maurice a mis à la disposition du gouvernement, Xavier-Luc Duval a soutenu que 28 milliards de roupies doit être traité comme une avance sur les futurs bénéfices distribuables au gouvernement, soit une dette.
Il faut faire un loan, une avance de 28 milliards de roupies au gouvernement mauricien. Et second, il faut faire un don, il faut faire un cadeau de 32 milliards de roupies comme de ce special reserve. Des affaires, il faut faire. Et la question, première question au ministre des Finances, c'est qu'il s'il donne une avance qui peut être déductible plus tard, il y aura un dividende à venir. Mais nous tout connaissons, une avance qu'un employé prend de tout travail, nos employés donnent nous une avance, mais déduire leur salaire à venir. Un an, deux ans, trois ans, pas fait, non, il dépend de grandir l'avance. Ils m'ont pas droit à c'est moi qui m'ont pas droit à là parce qu'ils peuvent déduire à venir. Mais c'est l'hérésie économique, c'est l'hérésie financière. Pour les venir comme ça, pas reconnaître qu'il est droit la Banque de Maurice, parce qu'il n'y a pas qu'un signe, aucun papier. C'est ça pour dire, recevoir leurs hommes, il n'y a que du pas un signe, aucun papier, c'est une raison pour ne pas mettre dans ce dette.
Le leader de l'opposition ajoute que les 28 milliards de roupies doivent s'ajouter à la dette publique. Au cas contraire, cette somme est illégale selon les dispositions de la Public Debt Management Act.
Qu'il y a une avance de la Banque de Maurice, il y a une loan et bizarre mettre dans le public debt. Quand on pose sa question là, carré comme ça, ministre des Finances, il va foutre répondre. Il est réel au Covid, on dit Pravin Jagnat dans BBC. Le non-traitement de 128 milliards de roupies qui fait une avance de la Banque de Maurice, il est illégal d'après le Public Debt Management Act. Et Maurice dit à lui, tous les dettes notices de la Banque de Maurice, because, et Maurice dit à lui là, the remaining balance of 28 billion rupees reckoned against reckoned as advance against future profits. Donc, il est clair qu'il traite moins la parole.
Ainsi, pour le leader de l'opposition, la dette publique ne peut plus être considérée comme étant à 95% du produit intérieur brut, mais à 103%.
Dette publique, tout aussi 95%, il vient de ce vrai chiffre. Parce qu'il y a un autre ajustement aussi à faire. Si ajustement, il vient de ce vrai chiffre de 103%. Qui veut dire aujourd'hui, vrai montant dette publique, les 103% et pas 95%, les films dépassent 100%. Maintenant, il est possible qu'il y ait les autres affaires, les zones cachettes qui nous pas retrouvées, en tout cas moi qui ne vais pas encore gagner le temps.
Transfert de 60 milliards de roupies de la Banque de Maurice vers le Consolidated Fund. Il ne peut être comptabilisé comme une dette publique, mais il n'y a pas d'obligation de repaiement, réplique Rengan Aden Padayachi. Cette contribution ne peut être comptabilisée comme une dette publique, a précisé Rengan Aden Padayachi en énumérant trois points dont aucun accord ni de prêt ni d'obligation de repaiement.
Monsieur le Président, j'affirme que les 60 milliards de roupies ne peuvent pas être comptabilisés comme une dette publique pour les raisons suivantes. Premièrement, il s'agit d'une contribution faite dans un contexte exceptionnel lié à la pandémie. Deuxièmement, il n'y a jamais eu et il n'y aura pas d'accord de prêt. Et de ce fait, troisièmement, il n'y a pas d'obligation de repaiement et donc pas de calendrier de paiement ni d'intérêt à verser.
Le député Kouchol Lubin a pris la parole lors des débats sur le budget ce mercredi. Il dit espérer que la création de la Financial Crime Commission ne soit pas qu'un effet d'annonce du ministre Padayachi. Selon lui, si cette instance ne voit pas le jour, ce sera un mauvais signal envoyé aux organisations et institutions internationales. Pour Kouchol Lubin, une Financial Crime Commission Bill aurait dû avoir été introduite au Parlement avant la présentation du budget. Le député bleu cite aussi attardé sur le dysfonctionnement de la commission anticorruption censée lutter contre la corruption à Maurice. En voici un extrait de son intervention.
For us to fight corruption, financial crimes, we need the Financial Crime Commission. For me, Mr. Speaker, sir, again, it is effet d'annonce. We are in year 2021, Mr. Speaker, sir. Where is the Financial Crime Commission bill? What the Honourable Minister should have done? It should have brought this Financial Crime Commission bill with a certificate of urgency before this House, before the presentation of this budget. This will not happen. The Financial Crime Commission will not be set up. This will send a very wrong signal, especially to EU, when we are asking to be put out of this ominous blacklist, that this Financial Crime Commission should be set up at the earliest. Because, Mr. Speaker, sir, ICAC is dysfunctional. It is an organization that is not working.
Le budget 2021-2022, quelle alternative économique? Ananda Raju s'entretient avec Ashok Soubron et Ivor Tanyan dans l'émission Hard Talk à partir de 17h30 cet après-midi. Vos appels au 213-77-77. Sur les Kisnan Papers, c'est mon campaign manager qui a préparé le return. Je n'ai fait que signer, affirme l'ancien ministre Yogi Dasso-Minaden. Lors de son sixième jour d'audition hier, l'ancien ministre du Commerce a été confronté aux Kisnan Papers. Il était interrogé par Maître Oshibaden, avocat du Kouma Dasso-Minaden. Le point avec Kevin Schlock-Simon, Jessica Goudin.
L'homme de loi a demandé à Yogi Dasso-Minaden si, comme inscrit dans les documents, Subramania Kisnen avait financé l'allocation de conteneurs dans la circonscription numéro 8 aux législatives de 2019. Yogi Dasso-Minaden a répondu qu'il n'était pas au courant des dépenses encourues et de préciser « je n'étais qu'un candidat et non le campaign manager ». L'ancien ministre a ajouté qu'il n'était pas au courant des procédures pour remplir le « election return », c'est-à-dire le formulaire que tout candidat doit remplir après une élection. Il doit contenir les dépenses encourues durant la campagne électorale. Yogi Dasso-Minaden a soutenu que c'est son campaign manager qui a rempli le formulaire et qu'il n'a fait qu'apposer sa signature dessus. Une réponse qui a étonné la magistrate Vidya Mangrojagarnath. Dans un premier temps, le colissier de Pravin Jugnauth avait tenté d'esquiver des questions sur cet aspect, arguant que l'affaire est devant la justice à travers une pétition électorale. Toutefois, la magistrate a autorisé Maître Oshibaden à poursuivre avec ses questions.
L'ICLEA, l'IPA comprend, Representation of People's Act, affirme Oshibaden. L'homme de loi n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Yogi Dasso-Minaden à sa sortie du tribunal de Moka hier. Lors de la séance d'hier, Maître Oshibaden a confronté l'ancien ministre du Commerce au fameux Kisnan Papers. L'élu de la circonscription numéro 8 a tenté d'esquiver plusieurs questions à cet aspect. Pour Maître Oshibaden, Yogi Dasso-Minaden ne comprend pas la loi électorale, soit la Representation of People's Act.
Effectivement, mon posé une bonne question. Le casque, monsieur late Mr. Kisnan, il payé pour Yogi Dasso-Minaden dans l'élection. Mais il n'y a pas pour lui. Il y a un demandé, il m'a dit, ça. Il m'a dit que Kisnan doit avoir 390 000 roupies. Mais là, nous avons trois récits qui Kisnan paye pour 10 containers pour dans l'élection qui fait 100 000 roupies. Mais est-ce qu'il tire tout une question de sa casse là? Et finalement, c'est qui l'IPDIA comme ça qui. Ça, c'est un paiement qu'il me fait pour l'élection. Mais là, je dis, d'après la loi, d'après Representation People Act, mais c'est pour les trois candidats, là, s'il n'est pas pour tout seul. Ça veut dire un tiers pour vous, là, dans 33 000, il paye pour vous. Et finalement, il explique lui dans la loi Representation of People Act qui dit, mais d'après ce bonne réponse qu'il a donné, c'est là où la Cour, il dit, mais il paraît qu'il n'est pas compris la loi Representation of People Act, parce qu'il n'est pas méconné, c'est pas un candidat responsable pour ce election returns, et qu'il y a un candidat, vous avez tout bonne dépense qui finit dans l'élection, dans sa electoral returns là, mais ça 100 000 qui se donne une payée pour ban container là. Même l'IPDIA qui, c'est pas un paiement à pour lui, mais un tiers, parce qu'il y en a trois candidats, un tiers, vous avez pour lui, non?
Une semaine après s'être fait vacciner, un sexagénaire admis aux soins intensifs, pour l'heure, il n'a pas été établi que son état de santé donc, est lié au vaccin. Selon son fils Adil Mohamed, il a commencé à se sentir mal à son retour d'un centre de vaccination de la capitale. Jusque-là, ajoute-t-il, son père était en bonne santé. L'homme s'est rendu dans un centre de traitement ce matin. C'est là qu'il a fait un malaise. Transporté à l'hôpital, il a été admis aux soins intensifs, selon les médecins. Dit son fils, il aurait eu un souci cardiaque. Écoutez le fils.
Mon papa, il y a une semaine d'ici là, il me fait vacciner. Et mon papa, il tient des mondes bien, il n'a pas aucun. Pas si malade, correct, il n'a pas aucun problème. On va. Mais. Et puis, il fait sa vaccin là, à soir, il commence tous les jours, deux, trois jours, dans une semaine là, il n'a pas payé de remis, à soir, il n'est pas malade, il n'y a pas de complications. Il n'a pas de remis, à soir, après, c'est le confirmant, il m'a aussi, à soir, il est levé, il écoute les kirs. Là, je vous dis, grand matin, il n'a pas pu sortir, il est bien, il est dans le dispensaire, après, écoute, donc, comment il est dans le dispensaire, il est tombé là-bas, son ancien téléphone, il y a nous, vient vite, ça a monde fini par en ligne, allez, là, il est à ICU. Il y a, il y a un problème, écoute les kirs, écoute. Il y a moi, quatre docteurs pour venir get lui, aller à la case. C'est le quartier spécialiste pour venir guetter parce qu'il n'a pas vu qu'il y a un réseau. Mon papa, il est retraité, il est dans la hausse, 70 ans, 63 ans. Il me fait vaccin, très contre nous-mêmes, parce qu'il contre moi, mon respect, il est une santé pour lui.
Contacté, l'attaché de presse du ministre de la Santé nous dit qu'aucun lien n'a été établi avec le vaccin pour l'heure, mais si tel est le cas, cela sera annoncé par le National Communication Committee. On n'est pas contre le vaccin, mais on s'oppose à l'obligation de se faire vacciner. S'insurge Bruno Lourette, l'initiateur de l'Union citoyenne, était face à la presse ce mercredi. Il est revenu sur la décision du gouvernement d'imposer la vaccination aux membres du public pour avoir accès aux institutions éducatives et de santé. Bruno Lourette se demande aussi pourquoi les vaccins Covaxin et Sinopharm ne sont toujours pas reconnus en Europe. S'ils sont vraiment efficaces, pour lui, le ministère de la Santé doit instituer un système d'indemnisation en cas de problème lié à la vaccination anti-Covid.
Si le docteur n'a pas 100% siège au vaccin, qui fait ça des vaccins au vaccin avec ses enfants, pas accepter, même si vous faites à Maurice, pas au moins dans l'euro. Si les 100% siège à vaccin, mais les visins mettent un seul dédommagement avant de nous qui pour gagner un problème direct ou indirect qui est lié à ce vaccin. Pour ce vaccin, il y a un stade expérimental. Voici ça, je me trouve maintenant moi pour la prévenir avec des affaires différentes. Nous pas pour vaccin, nous pas contre le vaccin, mais nous compte l'obligation qui se peut imposer nos dimanches direct ou indirect pour faire vaccin, donc elle nous strictement pour un casse de la tête et de la santé mauricienne.
Bruno Lourette estime aussi que le gouvernement ne peut mettre la pression sur les Mauriciens pour qu'ils se fassent vacciner. Il faut la liberté de choix, insiste Bruno Lourette.
Le combat, c'est qu'il laisse Simona choisir entre ce vaccin et ce traitement, mais pas venir imposer. Ou imposer, vous pouvez donner une option. Mais vous ne pouvez pas mettre une option que Simona ne vous trouve pas payer ce salaire à la fin du mois. C'est pour moi 2300. Vous chez Borca, tu dois arriver à peu près un salaire minimum. Mais il y a un travail juste pour. Vous êtes expressé, qui veut dire qu'on peut mettre une pression pour qu'il dit à le faire vaccin. Et ça, c'est contre la loi. Nous devons laisser le libre choix de choisir si on va faire vaccin, demain l'option traitement. Et vous faites en fait demain, pas venir produire un faux positif.
Le supermarché Winners de Rosebel reprend ses opérations à partir de ce mercredi. Le supermarché avait temporairement fermé ses portes après l'annonce d'un cas de contamination à la Covid-19 sur un de ses employés lundi. Dans un communiqué, la direction informe que le supermarché a été désinfecté et opère à partir de ce mercredi avec une nouvelle équipe. Et du cas enregistré dans la soirée d'hier, c'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le ministère de la Santé ce mercredi. Deux cas ont été détectés suite aux exercices de contact tracing en cours. Ces deux personnes étaient déjà en centre de quarantaine. Le pays compte à ce jour 390 cas actifs de la Covid-19. Incident survenu à Ballépito, la police procède à une quatrième arrestation. Les hommes du détective inspecteur Gouraï de la CID Metro North ont arrêté un homme de 23 ans durant la journée d'hier. Il s'agit de Rohimum, Shehzad, un habitant de Ballépito. Ce jeune homme a nié toute implication dans cette affaire et a réfuté les allégations portées contre lui. Toutefois, il a été positivement identifié par une autre personne interpellée par rapport à ces incidents. Rohimum Shehzad a été provisoirement inculpé pour rébellion devant le tribunal de Port-Louis hier. Le prévenu a été reconduit en cellule policière. Rappelons que dans la soirée du lundi 7 juin, des habitants en colère ont défié les forces de l'ordre et enlevé les barrages routiers délimitant la zone rouge. À l'hôpital Djitou, deux adolescents prennent la fuite. Les deux mineurs habitent résidence Valigi. Elles ont quitté l'hôpital le 27 mai dernier avant la police n'ait pu prendre leur déposition. Elles sont introuvables jusqu'ici. Les deux adolescentes avaient été admises à l'hôpital sur recommandation de la Child Development Unit. L'organisme a soupçonné qu'elles avaient été impliquées dans des cas de rapport sexuel avec deux autres mineurs à résidence Valigi. Leur disparition a été signalée à la police le 29 mai par les infirmières en charge de la salle. À Rivière-Sèche, sept travailleurs bangladais portés disparus. C'est hier que la responsable des ressources humaines de la firme a signalé leur disparition à la police. Les ressortissants bangladais sont introuvables depuis le 8 juin dernier. Ils résidaient dans un dortoir à Rivière-Sèche. Ces travailleurs étrangers âgés entre 29 et 51 ans sont tous sains d'esprit. Les recherches sont en cours. Et à Upperville, un adolescent de 16 ans arrêté pour vol. Ce sont les membres de la CID de Goodlands qui ont procédé à son arrestation. Le mineur aurait été impliqué dans un cas de vol rapporté le 1er juin dernier. Il aurait volé une somme de 40 000 roupies qui se trouvait dans la forconnette de son oncle. Il a retourné l'argent de son oncle. L'adolescent a été libéré sur parole. Rihanna Mengli Gulbul, nommée Senior Appointed Judge. Cette nomination a été faite par le président de la République après sur l'avis du chef juge Ashraf Konaï. Elle prend effet à partir d'aujourd'hui, mercredi 16 juin. Rihanna Mengli Gulbul devient ainsi le numéro 2 du judiciaire, succédant à la Senior Appointed Judge Nalini Matadine, qui prend sa retraite ce mercredi à l'âge de 67 ans. Notons que Rihanna Mengli Gulbul sera la nouvelle patronne de la Cour suprême à partir de novembre, lorsque l'actuel chef juge Ashraf Konaï partira à la retraite. Nous passons au rappel des titres. La dette publique à un niveau des plus alarmants. Xavier Luc Duval explique en ajoutant le montant de 28 milliards de roupies obtenus de la Banque de Maurice. La dette publique passe à 103%. Ces 28 milliards de roupies inclus comme revenu, le leader de l'opposition déplore une manipulation des chiffres par Ranganathan Padayachi. Pour sa part, Ranganathan Padayachi explique qu'il n'y a pas d'obligation de remboursement et que ce montant ne peut être traité comme une dette. Kisnan Papers, Yogi Dasso Minaden embarrassé par les questions de Rochibadin lors de l'enquête judiciaire. Une semaine après s'être fait vacciner, un sexagénaire admis aux soins intensifs. Aucun lien n'a été établi pour le moment, soutient le ministère de la Santé. L'Union citoyenne dit ne pas être contre le vaccin, mais s'oppose contre l'obligation de se faire vacciner. Le supermarché Winners de Rosebel reprend ses opérations à partir de ce mercredi. Un de ses employés avait été testé positif. Rihanna Mengli Gulbul nommée Senior Appointed Judge. À l'étranger, en France, le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire dès jeudi. Le couvre-feu levé dès dimanche. Euro 2020, l'Italie affronte la Suisse ce soir et obtiendra déjà sa qualification en cas de victoire.
Sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence.
Give us 3 minutes and we'll give you the world.
Jean Castex a annoncé la levée de deux mesures phares de la lutte contre l'épidémie du coronavirus sans attendre la date du 1er juillet comme cela a été initialement prévu. Jean Castex a annoncé ce mercredi la levée du port du masque en extérieur dès jeudi. Celui-ci ne sera plus obligatoire sauf dans certaines circonstances, regroupements, lieux bondés, files d'attente, stades. Les arrêtés préfectoraux seront modifiés. Dès demain, a précisé le Premier ministre français, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos. Le couvre-feu à 23h heure française sera lui levé dès dimanche 20 juin, soit 10 jours avant donc 10 jours d'avance sur le calendrier initial. Ces annonces interviennent dans le contexte d'une amélioration plus rapide qu'espérée de la situation sanitaire. La France se situe désormais en dessous du seuil des 5000 cas par jour. Cette amélioration s'applique à l'ensemble du territoire où aucun département ne présente à ce jour de dynamique inquiétante, a précisé le Premier ministre, qui a toutefois évoqué la vigilance particulière du gouvernement pour le cas de la Guyane. Jean Castex a par ailleurs appelé les Français à se faire vacciner, fixé la fin août l'objectif des 35 millions de vaccinés avec deux doses. Face à la menace des variants, le chef du gouvernement a indiqué que les contrôles aux frontières seraient renforcés. Un attentat à la voiture piégée a fait 36 blessés hier dans une base militaire de la ville de Cúcuta, dans le nord-est de la Colombie, selon le gouvernement qui a attribué cette attaque à la guérilla de l'armée de libération nationale. En annonçant ce bilan, le ministre de la Défense, Diego Molano, a condamné un acte terroriste visant des soldats colombiens. Trois des militaires blessés sont dans un état grave, tandis que deux civils se trouvent parmi les victimes hors de danger. L'hypothèse de départ de l'enquête est que l'armée de libération nationale est à l'origine de cet acte insensé et ignoble perpétré dans cette ville frontalière de Venezuela. L'armée de libération nationale est considérée comme la dernière guérilla active du pays depuis l'accord de paix en 2016 avec la rébellion des forces armées révolutionnaires de Colombie. Pour la troisième fois de sa vie, l'astronaute français Thomas Pesquet va effectuer ce mercredi une sortie extravéhiculaire qui doit durer plus de 6 heures. Les deux astronautes flotteront en apesanteur à 400 km au-dessus de la Terre, accrochés à la station spatiale internationale pour y installer un nouveau panneau solaire. Ils recommenceront l'opération dimanche pour déployer un deuxième et ainsi augmenter la puissance du vaisseau construit en 1998. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.